C'est super d'être là ce soir. J'aime que pasteur, non, c'est, il n'est pas pasteur, mais Philippe Sirage dit, il ne vient pas chaque tous les mercredis ou tous les dimanches, il vient chaque dimanche, chaque mercredi. Ça veut dire chaque moment et il n'a aucune familiarité. C'est maintenant et maintenant. Et donc, cette attitude de connexion avec Dieu et d'être sur le lieu très saint, d'être sur une terre très saint. OK, donc les annonces brièvement pour ce soir. Ah, les annonces. Donc, demain soir, Montpellier, ils ont invité Pasteur Mark Minicello de Baltimore, missionnaire américain dans le sud de France, je ne sais pas pour combien, de plusieurs années. Donc, c'est lui qui va prêcher demain soir. Après ce culte fini, je vais envoyer le message avec le lien WebEx afin qu'on peut connecter demain soir. Donc, tout est possible. Après ça, nous n'avons pas un culte, un cours de doctrine appliquée demain soir. C'est une pause. Et nous avons le dernier, le jeudi prochain, le 20 mai. Ça va être le dernier cours, doctrine appliquée, cours numéro 12, le 20 mai. Et juste pour dire un grand merci à vous tous pour vos prières, je peux dire, oui. Comme peut-être certains de nous, que nous savons, que les parents d'Isabelle cherchaient pour un endroit, un appartement. Et on a prié beaucoup pour ça. On a demandé que Dieu vraiment exauce cette prière. C'est important pour eux de rester avec la fragilité, on peut dire, du père d'Isabelle et être plus proche de la famille. Donc, hier, ils ont trouvé finalement quelque chose, un appartement. Donc, ça va être, je crois, libre de le septembre. Donc, c'est une super réponse de prière parce que, bien sûr, beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Donc, continue de prier pour les parents d'Isabelle, et bien sûr, pour le salut de José, son père, mais aussi pour la vie après. Dans le nouvel appartement. Ça, c'est tout. Croyons que Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies. On n'est pas une vie de médiocrité. Et ce soir, pour le message, je pense que j'ai parlé de ce sujet, de ce personnage dans la Bible. En 2019, août 2019, mais je vais reparler de ça, je pense que c'est important. Et on va préparer nos cœurs, on va prier. Seigneur, merci pour ce soir. On est simplement les vases d'honneur. On est utilisés par toi, Seigneur, pour ta gloire. On est remplis par toi. On demande ta puissance, on demande ton autorité, on demande que tu oignes ce message, on demande que tu touches nos cœurs. On n'est pas là pour les jolis mots, on n'est pas là pour des choses vaines, on est là pour la vie. Et tu es la vie, et tes paroles sont esprit et vérité. Et tu touches le profond de nos cœurs, et tu nous vois dans la profondeur, quand les choses en cachent, Seigneur. Donc touche chacun, chaque personne. Et pour ceux qui ne sont pas Zoom ce soir, ni présents en présentiel, mais peut-être va écouter ce message sur le site une autre fois, Seigneur. Vraiment, touche chaque auditeur. Ta parole est fraîche, ta parole est importante. On ne sait pas qu'est-ce qui va passer dans l'avenir. Vraiment, Seigneur, on ne limite pas la puissance de le Dieu éternel d'Israël. Merci, Seigneur. Amen. Ce soir, on va parler d'un personnage. Peut-être je vais essayer d'utiliser aussi. Enoch. Enoch. Dans la Bible, on est souvent intéressé par les biographies de les caractères majeurs. On a beaucoup d'informations sur David, pas mal sur Samuel, bien sûr Pierre un peu, Paul beaucoup plus. Et la révélation progressive dans l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament nous aide d'avoir une compréhension beaucoup plus sur les sujets abordés très peu dans l'Ancien Testament. Et Enoch, il est très peu sur lui. Mais parce que nous sommes croyants, nous avons cette révélation progressive jusqu'à la fin. On peut comprendre un peu sa vie et on peut dire que sa vie, en fait, il y a des choses en commun entre nous et lui. Ce n'était pas juste une vie. Genèse chapitre 5. Peut-être on va tout de suite lire. Et ce soir, je propose, après on a fini, qu'on peut réaliser en fait, on est dans le même bateau comme Enoch. Voilà. Genèse chapitre 5. Donc nous avons chapitre 5, cette fameuse liste de descendants d'Adam, Seth, etc., jusqu'à Noé. On va lire. Jared vécut après la naissance d'Enoch, verset 19, chapitre 5. Il a vécu 800 ans. Il a engendré des fils et des filles. Tous les jours de Jared furent de 962 ans, puis il a mouru. Mort. Fin. Verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendrait Methuselah. Verset 22. Enoch, après la naissance de Methuselah, marchait avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch feront 265 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ça, c'est le passage que nous avons. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est pas la foi que Enoch fut enlevé, pour il ne vit point la mort. Il n'a pas expérimenté la mort. Et qu'il n'apparut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Où sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons dernièrement un passage en chapitre en Jude, l'épître courte, épître de Jude. Nous avons dans ce topic, Enoch parle en commentaire de des versets précédents qui parlent de ces types de, faux docteurs. Donc, les descriptions nous avons des faux docteurs. Verset 11, verset 12, verset 13. Après, nous avons une citation de le livre d'Enoch. C'est un livre, c'est dos de la Bible, c'est pas dans la Bible, mais une citation clairement inspirée parce que c'est dans les Écritures. Verset 14. C'est aussi pour eux que Enoch, le septième, depuis Adam, a prophétisé Et c'est un « voici le Seigneur est venu avec ses myriades, ses cent myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes impétés qu'ils ont commis et toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui et des pécheurs impies. » Ça veut dire « jugement ». Ça veut dire qu'il avoue quelque chose d'important. Et maintenant, je voudrais parler de ce passage en Genèse chapitre 5. Nous avons lu tout ce qui sont dans la Bible qui parle d'Enoch. Mais maintenant, la première chose qu'on peut dire de lui, ce n'était pas juste un homme dans une liste de généalogie. Il y a une vie derrière. Quelqu'un qui était né, quelqu'un avec les espérances, quelqu'un peut-être une vision pour sa vie, quelqu'un qui a espéré pour plus, quelqu'un qui a vécu des moments difficiles, quelqu'un qui a compté les jours et pensé « il y a plus ». Quelqu'un qui a expérimenté la souffrance. Et on peut dire que ce n'était pas une vie banale. Quand Dieu choisit de nommer quelqu'un dans la Bible, c'est important. Il a une signification. La Bible est limitée. Ça veut dire que Dieu ne dit pas tout ce qui était vécu. Il donne des choses essentielles afin qu'on peut comprendre, parce que nos pensées sont vraiment distraites. On est dans une époque sur la terre qu'on est absorbé, trompé, saturé, imbibé par l'information partout. Et on est distrait par les petites choses de ça et ça. Dieu connaît la capacité de nos pensées. Et pour lui, il dit, je vais donner exactement ce que vous avez besoin. Prendre ça, pas plus. Pas théoriser, pas commencer à intellectualiser, pas imaginer d'autres choses. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas important. Prendre les choses essentielles, prendre les vérités. Juste un homme, mais quelque chose de plus. Il était appelé. Pourquoi qu'il était appelé? Parce que chaque croyant dans la Bible est appelé. Dieu nous appelle. Psaume 139. Je te vois, Dieu dit. Je te vois dans ton souffrance, quand tu n'es pas compris par les autres, quand tu exprime pas les choses de ta vie. Quand tu désires plus, je te vois. Je vois la profondeur de vos cœurs. Je t'y sais. Dans le ventre de ta mère, en fait, j'ai protégé, je te protège. Dans le ventre de ta mère, avant la naissance, après la conception, j'étais là avec toi, en train de former notre être. Et ce n'est pas juste un homme, Enoch. C'est quelqu'un qui va croiser Dieu, qui va avoir cette rencontre avec Dieu. Ce n'était pas juste une personne, comme ici, on peut avoir les gens dans la salle, assis sur les chaises et pensent, je suis personne. Ah, quelque chose, on va parler une autre fois. 666, c'est le nombre de bêtes, l'Antichrist. C'est un chiffre. Cet monde décide à nommer chacun de nous un chiffre. On est une combinaison de chiffres sur une database, sur un ordinateur, sur un serveur. On n'est pas ça, on est des créations de Dieu. Enoch aussi, pas juste un homme, mais quelqu'un plus que ça. Chacun de nous, nous sommes plus que juste le nom. Il y a un personnage derrière de ça. Il y a des émotions, il y a des pensées, il y a une vie avec nous. Enoch, c'est le même comme nous. Pas extraordinaire, mais avec un Dieu extraordinaire. Ça, c'est la clé. La deuxième chose, on peut dire, et avant, je dis ça, vous n'êtes pas le fils ou la fille de quelqu'un, vous n'êtes pas les parents de quelqu'un, vous n'êtes pas le cousin ou neveu de quelqu'un. Vous êtes toi, tu es toi, vous êtes vous. Vous n'êtes pas juste la femme ou le mari de quelqu'un. Vous êtes vous, chacun. Et Dieu dit, je ne regarde pas quelqu'un à côté, je regarde toi. Et la parole est pour toi, et mon amour est pour toi. Et Enoch, tu n'es pas le père de Methuselah, tu n'es pas le fils de Jared, tu es toi, Enoch. Écoute-moi, suis-moi. Mon invitation est pour toi. La deuxième chose on peut dire, le monde n'a pas changé. C'est le même comme avant. On parle de plus de 5 000 ans en arrière, dans le passé. En fait, on parle de le fait qu'on ait des centaines et centaines et centaines d'années dans le passé, mais la même situation. L'homme est perdu. L'homme entre dans les faux chemins. Il est des faux prophètes, il est des péchés, il est des souffrances, il est des injustices, il est des violences. Regardons Genèse chapitre 6, juste pour avoir une idée. Nous avons des problèmes depuis le premier verset. Et la violence, et le cœur de Dieu, et de voir les gens tristes. Enoch a expérimenté ça. Lot a expérimenté Sodome en souffrance. Lui, il a accepté de rester en Sodome. C'est une autre chose pour Enoch. C'est une autre chose pour nous. On doit vivre ici. Dieu nous a appelés dans cette génération impure, impie, sans Dieu, avec tous les valeurs contre lui. C'est nous qui sommes choisis de vivre là, maintenant, dans le 20e siècle, en 2021, en Suisse, à Genève, en France, voisinage. On est appelé d'être là. Et donc, comme Enoch, on voit les choses qui ne vont pas bien. On voit toute la multiplication de péchés. On voit l'avancement de l'homme dans la technologie. On ne sait pas quelle est la mesure de technologie dans la vie d'Enoch dans cette période, parce que le déluge a effacé tous après. Mais on sait d'une chose, l'homme a commencé à être plus civilisé. Il a construit les villes, les énormes villes peut-être. La multiplication de gens qui a rempli la terre. Mais une rébellion contre Dieu. Une unité contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a regardé? Est-ce que nous avons passé voyager par avion la nuit, pendant la nuit? Et on tourne et on regarde en bas et on voit, et le pilote dit, ça c'est pareil à notre gauche. On peut regarder, on peut voir les lumières de Paris. Et là, de notre droit, on peut regarder Londres et on peut voir toutes les lumières, toutes les choses en train, avec toute cette lumière. Mais Dieu, il a regardé la terre. Pas de lumière, obscurité totale. Parce que si on regarde les lumières, on regarde les lumières artificielles. Mais Dieu, quand il regarde, il voit la lumière dans le cœur. Et dans un monde qui n'a pas la lumière, sauf pour ceux qui ont Jésus-Christ, c'est obscur. Imaginons le cœur de Dieu. Imaginons comment il est triste quand il voit sa création détournée, loin de lui, aucune pensée vers lui, aucune entrée. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous, de tracer un chemin. C'est un monde difficile. Et en plus de ça, on peut dire, Methuselah, 969 ans sur la terre. Enoch, 365 ans sur la terre. Combien de jours? On va faire la multiplication. On fait le math. 365. Maintenant, on n'est pas sur le calendrier. C'est probablement pas notre calendrier maintenant. Donc, 360, pas 365 jours, 360 jours. Ça, c'est le calendrier hébreu dans l'Ancien Testament. Peut-être c'est le même. Jours sur la terre, sa vie. Je vais expliquer pourquoi. Lamech était le père de Noé. À la fin de ce chapitre, Genèse chapitre 5, une fermière, un agriculteur, en train de travailler avec ses mains. Dieu a maudit la terre. Ça, c'était la malédiction donnée à Adam. Genèse chapitre 3. Ok, Adam, il faut que tu travailles pour pousser les fruits, les légumes pour manger. Combien d'années Lamech a dit, finalement, nous avons un fils, Noé. Il est là, il va prendre le travail et puissant pour nous. Parce que nous sommes maintenant, on est en vacances, on est férié. Demain, c'est le férié pour certains de nous. On pense, waouh, super, on est férié, on est vacances, on peut reposer. Mais pour Enoch, pour Lamech, pour Methuselah, pour Noé, pour les personnes de cette époque, pas de vacances. Sabbat, oui, le sabbat était donné après. Mais combien d'années de travail, jour après jour après jour, et de voir les légumes qui ne poussent pas. Et c'est la vie. Il faut manger, donc il faut pousser ça. Combien de fois la banalité, la médiocrité de la vie, le soleil couche, le soleil se lève, c'est le jour, il faut travailler, c'est 4 heures le matin, il faut bosser, après il faut dormir. Dormir, se lever, manger, travailler. Quelle vie! Nous sommes privilégiés, en fait, dans notre vie, parce que nous avons le produit pour nous. On peut manger, on peut acheter le Migros, on peut acheter en France, on peut acheter ailleurs, dans le supermarché. Mais chaque jour, combien de jours il doit travailler, transpirer? Combien de jours il va dire, j'en ai marre, il faut sortir du lit maintenant, il faut travailler de nouveau, ouf! Combien de jours il a dit, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus. 65 ans. Et le premier fils, Methuselah, qui va être l'homme le plus âgé, le plus dans le sens de longueur des années dans la Bible. Et on peut dire, super, il a vécu tout ça. Il est probablement en bonne forme. Oui, mais le douleur, le travail, la souffrance, la médiocrité, je pense que c'était pas, peut-être pas une bénédiction pour lui de rester. Et donc, pour Enoch, c'est une miséricorde. Il a vécu juste 365 ans. Donc, quand on peut être un peu en marre de penser, il faut faire ça demain et on doit faire ça, pense à lui. Combien d'années de travail, combien, il n'a pas les choses que nous avons aujourd'hui. Et en plus, il n'a pas ça. Et nous avons ça. qui donne le sens. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a un lien avec nous. C'était un monde difficile, un monde corrompu, mais il a continué. En conversion, après la naissance de son fils, Dieu a parlé, quelque chose est passé dans sa vie. Il était un avant et il est un après. Donc avant, il juste voit la difficulté de la vie, la frustration. Quelle est la raison que je suis sur la terre? Après, conversion, il est quelque chose qui passe ici. J'ai un fils et Dieu a parlé et je dis oui. Parce qu'en fait, rien ne change le salut et une grâce donnée gratuitement par Dieu. À chacun, c'est une invitation. Quelque chose est passé, conversion, quelque chose, appelé. Et Enoch n'était pas très plus spécial de nous. Il était un homme comme nous. Il était un être humain comme nous. Et il a dit oui. Ça, c'est la raison pourquoi il est extraordinaire. Et ça, c'est la raison qu'il peut vivre 300 ans plus sur la terre. Parce qu'il a dit, maintenant j'ai une vision. Maintenant j'ai un but pour ma vie. Maintenant j'ai la force de marcher. Je ne sais pas combien d'années, mais je vois que mon grand-père a vécu plus de 900 ans. Et Adam et tous les autres avant, une longitude de vie. Donc je dois être accepté que je dois passer une vie peut-être 600 ans et plus sur la terre. Donc je dois être vraiment en forme pour ça. Ça veut dire que j'ai besoin de Dieu. C'est le même pour nous. On est sur la terre maintenant. On va vivre combien d'années? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, on ne va pas arriver si nous n'avons pas la force, la vie, la grâce, le mot de lui, parce que la vie est longue. Peut-être on est là pour 20 ans, 40 ans, on ne sait pas combien d'années. Je ne vais pas faire un calcul que les âges dans cette salle de chacun de nous et aussi d'imaginer combien d'années pour ceux qui sont connectés par Zoom. Mais une chose est certaine, on a des années devant nous, sauf si le Seigneur vient. Et c'est un marche avec Dieu, un marche chaque jour avec Jésus-Christ qui va compter. C'est ça, en fait, j'ai abordé le quatrième point. Il a marché avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit oui à Jésus-Christ, il a dit oui pour le salut, et il a marché, marché, marché. Chaque décision devant le Seigneur, chaque moment devant le Seigneur, parce qu'en fait la vie était difficile pour lui. Si on peut imaginer la violence, on peut imaginer la corruption, on peut voir la méchanceté sur la terre. Il a vu ça, Noé a vu ça. C'était certain, il n'y a pas grand chose à vivre si ce n'était pas pour Dieu. Il a marché. Les générations avant, nous n'avons rien mentionné, sauf le commencement de Genèse chapitre 5, qui commence à crier. Seigneur, Dieu, si tu es là, aide-nous. Mais pas vraiment connexion pour les autres. Parce que seulement lui mentionné, il a marché avec Dieu. Quelque chose est passé, il a un début. Il n'est pas une fin. Parce que le marche avec Dieu, on dit marche, oui, mais Dieu a dit simplement suis-moi. Suis-moi chaque jour. Suis-moi pour chaque décision. Suis-moi quand tu as des problèmes. Demande à moi. Parle avec moi. Communique de ton cœur. Il n'a pas la Bible. Mais on est dans le même bateau, la même situation que Enoch. On a des années devant nous, on ne sait pas combien d'années, et on est peut-être, on peut dire, waouh, ça va être difficile, je vais âger plus, je vais avoir des problèmes, la maladie peut-être, je vais, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la retraite? Et Dieu dit, marche avec moi, suis-moi, fais confiance en moi, chaque jour, chaque moment. Ce n'est pas juste, j'ai passé 5 ans de marche avec le Seigneur, et après, sur le canapé. Non, c'était chaque jour. Ça veut dire qu'il a une dépendance. Ça veut dire qu'il était consistant, persévérant, endurant dans sa marche, parce qu'il n'y a rien à, en fait à gagner s'il est sourd. Il a tous à gagner avec Dieu, mais c'était toujours une vie difficile. Dieu n'a pas enlevé les problèmes. Sa vie était toujours les défis, les problèmes avec les Canaanites, avec ceux de la génération de Cain, Tubal-Cain, et toute cette génération après, un monde corrompu, maudit, méchant. Waouh, c'est déprimant. Hein? Si on n'est pas ça, c'est la vie en vain. C'est Ecclésiastes chapitre 1. Tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. Non, mais avec lui, il a quelque chose, un éclairage. Son cœur brûle, il marche avec Dieu. Parce que c'est le même pour nous. C'est le même pour Paul, c'est le même pour David. Il n'y a rien qui a changé. Si Dieu ne vivre avec le croyant, on n'a rien. On ne peut pas marcher par notre propre force. Donc, il a marché consistamment avec Dieu. Ça veut dire qu'il a dépendu de Dieu. Ça veut dire que ce n'était pas sa propre force. Ça veut dire qu'il n'était pas extraordinaire. Ça veut dire qu'il est peut-être les jours, il prend comme ça, il dit, « Au secours, Seigneur, aide-moi !» Et cette humilité est la même pour nous, d'accepter. Chaque jour, on va marcher avec lui. C'est une vie avec Dieu. Wow. Il a laissé une trace. C'est la chose que je voudrais dire maintenant, prochainement. Il a tracé un chemin sur la terre parce qu'après la partie, personne ne peut le trouver. Imaginons un an que nous, maintenant, on est dans cette salle et certains pas Zoom. Imaginons que Dieu et on est plus là sur la terre. Je pense que bientôt, les gens vont commencer à appeler. Quelqu'un va envoyer un message. Tu n'étais pas au travail aujourd'hui. Tu n'as pas payé la facture. Tu n'étais pas là pour boire un café avec moi. Qu'est-ce que se passe? Notre vie laisse une trace. Je vais expliquer quelque chose. Comme Paul a parlé de les cœurs sont élargis en 2 Corinthiens chapitre 6, il parle de la vie qui est grande. David parle de la même chose. Ça veut dire que nos vies sont un peu petites, ne sont pas centrées sur nous. C'est ça. Dieu est le centre de notre vie. Nos cœurs sont larges. Ça veut dire qu'on est une table autour de nous avec les gens. Ça veut dire qu'on touche les vies des autres parce que Dieu veut qu'on ait un témoignage. Enoch a un témoignage, il a laissé un témoignage, on a lu ce témoignage aujourd'hui, il a plaidé Dieu, il a dit oui et le Seigneur a accepté, c'était agréable pour le Seigneur. On n'est pas ordinaire, nos vies touchent les autres. Quand on parle, on amène la présence de Dieu. Quand on sort de cette salle après, la présence de Dieu va sortir avec nous. Ce n'est pas la salle qui compte. C'est nous. C'est nous. Et quand on marche et entre dans notre bâtiment, notre appartement, on amène la présence de Dieu avec nous. Quand on croise un voisin, Dieu croise le voisin. Quand on parle, peut-être Dieu va parler. Quand on amène quelque chose pour aider quelqu'un, Dieu est en train de travailler parce qu'il veut avoir les contacts. On n'est pas un petit V. C'est le V que Dieu propose. Le quoi est le centre parce que Dieu est le centre de notre vie. Ça veut dire qu'il va inviter les gens parce que quand Dieu a demandé, quand Jésus dit, quand je suis présenté comme ça, je vais attirer tout le monde vers moi. Si on est comme ça, que Dieu est le centre, on propose, on lance Jésus-Christ et il va attirer tout le monde vers lui parce qu'il va être visible et moi, je vais être là. Donc les gens, en fait, voient Jésus-Christ glorifié. Et si Jésus-Christ est glorifié et si nos vies touchent les autres et si les gens comprennent le message de l'Évangile, si on a quelque chose à dire, s'ils sont touchés par ça, ça veut dire, le moment où on part, le gens va dire, écoute, il a laissé une trace, il est quelque chose d'extraordinaire. L'enterrement d'un ami, le père d'un ami en Angleterre, il s'appelle Stan Craddock en Angleterre. Son fils est Alistair, il est le pasteur de l'église de Chester. Stan était un homme doux et humble. Il n'était pas un homme qui a parlé trop, il est un homme qui a amené la vie de Christ. Il était généreux, doux, il a pris pour les gens. Il est toujours les gens qui rentrent dans la maison. Il a toujours un gâteau et une tasse de thé pour les visiteurs. Ils sont bien connus dans ma ville parce que c'est là que j'ai habité. C'est eux, ils ont habité dans le même, presque le même quartier. Quand il est mort, mort de cancer, ceux qui sont là pour soutien dans son maladie, dans la maison, les infirmiers envoient de voir et de traiter comme ils peuvent. Il a laissé quelque chose et cette enterrement, cette cérémonie, plein de gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont jamais peut-être rentré dans une église avant. Ils sont venus, ils ont entendu l'Évangile, ils ont vu que quelle est la raison que Stan Craddock était là sur la terre, Jésus-Christ. Quand Enoch a marché, il a laissé une trace. Quand il a parté, les gens ne peuvent pas trouver Enoch. Je pense que les célébrations de chaque année par Adam et Seth et tous les autres, toutes ces générations, il va dire, écoute, il a disparu, il n'est plus avec nous. Est-ce qu'on peut rappeler les choses bizarres qu'il a dit de cette vie avec Dieu? On ne comprend pas, mais il n'est plus avec nous et on ne peut pas trouver. On laisse un espace et on laisse une trace sur la terre. On pense que si on n'est pas là, personne ne va connaître. Personne ne va dire, oh, il est où? Elle est où? Non. Quand on n'est pas là, on a laissé une marque avec les autres, qu'on n'est plus là. Il est quelque chose que les gens manquent dans ses cœurs. Quand cette église n'est plus là, les gens vont voir ça. Parce qu'on est si présent dans les vies des gens, quand les gens peut-être ont marre avec nous, mais on laisse une trace éternelle dans la vie de nos parents, dans la vie de nos familles, dans la vie de notre collègue de travail. On laisse quelque chose qui compte. Louis, il a compris quelque chose. De compter ses jours, Psaume 90, verset 12. Donner une sagesse afin que je puisse avoir une valeur pour ma vie, afin qu'il y ait quelque chose dans ma vie, afin que je puisse racheter le temps. Il a laissé une trace. Enlever. Comme ça. Un jour, cette église, on ne parle pas de l'église de grâce ici, on ne parle pas de l'église, les églises de grâce, les assemblées de grâce, on parle de toutes les églises, tous les membres qui sont baptisés dans le corps de Christ sur la terre, c'est fini. Un jour, on va partir, on va dire au revoir, Chérie, je pars de la maison au revoir, un ami. On se voit après. Bouf, c'est fini. Dans un instant. Il n'était pas prévu de son enlèvement. C'était juste un jour. Je pense que Dieu n'a pas dit, « Ok, Enoch, en 10 jours, tu vas aller avec moi. » Non, pour Enoch, la transition, c'était spontané. C'est le même pour nous. On va être là et on va être devant le Seigneur. C'est une préparation maintenant. Parce qu'un jour, ça va être rapide comme ça. Et la dernière chose, en Jude chapitre, il y a un chapitre en Jude, mais c'est la dernière chose qu'il a en commun avec nous. Verset 14 parle de cette deuxième venue de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19 parle de Jésus-Christ sur un cheval en train de descendre pour juger la terre. L'Église, les saints, habillés avec les vêtements blancs, les lins blancs, représentent la justice de Dieu. Il va descendre avec lui. Ici, nous avons un homme. Combien de milliards d'années avant qu'il a vu ça? Il a été averti en avance. Personne n'a compris, peut-être. Mais il a vu quelque chose et Dieu a expliqué quelque chose. Ça veut dire que sa marche avec Dieu était si proche que Dieu a révélé quelque chose assez secret que personne n'a compris. Parce que pour nous, l'enlèvement n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament. Et nous avons un caractère dans le début de l'Ancien Testament en train de regarder le deuxième venu de Christ qui était enlevé, comme l'Église va être enlevée. Une confiance extraordinaire pour un homme qui était ordinaire comme nous, qui est juste en train de lutter pour sa vie. On n'est pas ordinaire, on est un Dieu extraordinaire, nous sommes extraordinaires. Et en bref, pour terminer cette chose, il a marché fidèlement, on marche fidèlement. Et un jour, on va être avec le Seigneur et on peut discuter avec Enoch plus de sa vie. Mais nous avons les éléments en place pour apprendre de sa vie les choses secrètes, les choses importantes. Peut-être le Seigneur va confier quelque chose d'important pour nos vies. Peut-être il va éclairer nos vies, on va voir les choses. On est en train de voir prophétie accomplie maintenant sur la terre. Ça, c'est un privilège. Personne n'a vu les âges avant. Donc voilà, soyons encouragés. C'était pas en vain pour lui, c'est pas en vain pour nous. Un jour, on va être avec le Seigneur. Marchons, marchons, marchons. Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et on va prier. Seigneur, merci pour ce soir et merci pour ce message. Merci parce que tu as un avenir glorieux pour nous. On ne peut pas compter, on ne peut pas imaginer. Nos pensées ne peuvent pas contenir, on ne peut pas comprendre comment c'est possible d'être avec toi comme Enoch et de juste simplement marcher fidèlement, d'accepter jour après jour. Ce n'est pas une vie banale, c'est une vie extraordinaire. C'est la présence de Dieu qui fait tous. Bénis chacun de nous maintenant. Bénis notre soirée. Peut-être tu as quelque chose pour nous demain. Peut-être on va être avec toi demain, on ne sait pas. Mais on est juste heureux, on est béni, Seigneur. Cette vie sur la terre, cette vie à venir. Merci, Seigneur. Bénis nos soirées maintenant. Amen.